Pour ce temps de prédication, je vous propose de regarder une courte vidéo. Tous ces enfants qui sont en train d'apprendre à faire du vélo, qui découvrent les joies de monter sur un vélo, de se faire mal. Les parents qui sont à côté, vous avez vu, il y en a qui essayent d'accompagner, puis en fait, ils tombent avec l'enfant. Finalement, on se pose la question de savoir à quoi servent les parents. Et à la fin aussi, la joie de cet enfant qui dit « J'y arrive, ouais, j'y arrive !» Et je trouve que c'est vraiment très marquant la manière dont cette joie peut être exprimée en disant « Ça y est, j'ai réussi !» Alors j'aimerais vous poser une question. À votre avis, combien de livres ces enfants ont-ils lu pour apprendre à faire du vélo? Zéro? Mais alors combien d'heures de classe est-ce qu'ils ont suivi pour apprendre à faire du vélo? Zéro. Et probablement le moins possible, ils en suivent le moins possible. Parce qu'en fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est que plus on va passer du temps à étudier en classe et à lire des livres, et moins on saura faire du vélo. Et le meilleur moyen pour apprendre à faire du vélo, c'est de faire du vélo, c'est de monter et de commencer à pédaler. Vous avez vu cette fille qui commence à pédaler et qui du coup, en fait, elle ne sait pas trop comment faire et puis en fait, elle n'arrive pas à tourner et puis elle fonce directement dessus. Ben, c'est aussi ça, c'est on se lance, on démarre et après, ben, il peut se passer plein de choses. Avec papa, maman aussi. Parfois ils sont là, parfois ils sont pas là. Parfois ils ont je me dis en fait toujours la personne qui porte la caméra, qu'est-ce qu'elle vit en fait. Du coup, elle voit son enfant qui se lance. Il y en a certains qui rigolent. Je ne sais pas trop si c'est très solidaire par rapport à leur enfant. Et alors qu'on démarre cette série de prédications, puisque vous savez qu'il y a deux week-ends qui sont prévus, un week-end aujourd'hui, donc avec le temps de la prédication maintenant, et cet après-midi, donc un repas communautaire qui sera partagé, et après, un temps pendant à peu près une heure et demie, une heure et demie, deux heures, je crois que c'est de 14h à 16h, où on aura l'occasion aussi de parler, d'échanger, de partager un peu qu'est-ce que ça signifie pour nous, être disciples de Jésus-Christ. Alors qu'on démarre cette série, et aussi dans 3 semaines aussi, où Jeff nous introduira aussi à d'autres thématiques, notamment sur le fait de vivre l'évangile au quotidien, de vivre sa foi au quotidien, ça me semblait important de mentionner, de garder en tête que finalement le discipulat, ça fonctionne un petit peu comme apprendre à faire du vélo. Parce qu'un disciple, et là je vais laisser Teddy prendre la main, parce que le beeper ne marche pas, parce qu'un disciple, c'est un élève, mais on dirait plutôt même un apprenti. Il y a quelque chose de très pratique dans la manière de le vivre, un apprenti de Jésus, comme dans un apprentissage, qui répond à l'appel « Suis-moi, marche à ma suite », et qui se lève le matin avec le désir, justement, de suivre l'exemple que Jésus lui a donné et d'apprendre de lui. Et donc, parfois, on peut avoir des personnes qui vont se lever le matin, qui vont ouvrir leur Bible et qui vont la refermer en disant « J'ai eu un bon temps de discipulat, c'était vraiment bien ». Mais en réalité, en fait, c'est pas quand on ouvre la Bible que commence le temps de discipulat, c'est quand on la ferme. Parce que c'est là où on voit, est-ce que ce qu'on a lu, ça transforme notre vie, notre manière d'être? Est-ce que ce qu'on a appris, le temps de prière, de méditation, le temps de lecture biblique, est-ce que du coup, au moment où je ferme ma Bible, ça devient quelque chose de vivant, quelque chose qui s'incarne, quelque chose qui ressemble à prendre un vélo et commencer à rouler. Sinon, on reste dans de la lecture et on ne saura pas beaucoup plus faire du vélo. De la même manière, on ne saura pas beaucoup plus marcher avec Jésus. Je crois que c'est un des dangers que nous, chrétiens, on peut avoir quand on se dit suiveur de Jésus, Parce que parfois, et là je parle aussi pour moi, et surtout pour moi peut-être, le fait de lire des livres, d'écouter des prédications, de suivre des formations en ligne et tout ça, ça nous donne l'impression qu'on est un peu plus disciple quand même, qu'on est un peu plus spirituel en fait. Mais clairement, si on en reste là, ben, Jésus nous dit « c'est pas moi que tu suis ». Si c'est juste de la théorique, si c'est juste de la routine, de la lecture, mais ça ne transforme pas ta vie, alors ce n'est pas Jésus, Christ, dont tu es disciple. On peut avoir des points de vue très différents sur ce que c'est la mission, le discipulat, le fait d'être chrétien aussi. On aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Et en fait, cet après-midi, c'est vous qui allez parler, en fait. Donc, il n'y aura pas de grand exposé ou de choses comme ça, en fait. On fera des petits groupes, des temps d'échange et de partage. On peut avoir des points de vue très différents. On peut avoir des avis aussi, des réponses sur des situations pratiques. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on veut tous se mettre à l'école de Jésus. Et on veut apprendre à être, à faire et à vivre ce qu'il nous enseigne. Je pense que sur ça, on est d'accord. Parce qu'en fait, il y a un élément fondamental qu'on a tous en commun, c'est qu'en fait, on grandit en regardant et en imitant autour de nous. Et ça commence dès le plus jeune âge, on le voit avec nos enfants, en fait, on reproduit ce qu'on voit. On imite, et il y a plein d'études et plein de preuves aujourd'hui qui font que du coup, dès le plus jeune âge, en fait, on va reproduire ce qu'on voit et on va imiter les comportements qui sont autour de nous, en fait. Parfois, c'est des bons exemples, parfois, c'est des moins bons exemples. Et il y a une citation que j'aime bien, c'est un théologien qui s'appelle Dallas Willard qui dit « Une chose est sûre, tu es le disciple de quelqu'un. Tu apprends à vivre selon l'exemple de quelqu'un. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Les êtres humains, ils ont besoin d'apprendre et de continuer à apprendre toute leur vie grâce aux autres. » Toute leur vie. Toute notre vie, on va continuer à apprendre et à progresser. Et c'est marrant parce que souvent, quand on échange avec les gens, parfois, il y en a qui nous disent « Mais pourquoi toi, tu penses que suivre Jésus, ça permet de faire le bien ou ça permet d'agir bien ?» Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de suivre quelqu'un pour agir bien? Ben en fait, moi, j'aurais envie de leur répondre, finalement, c'est qui ton modèle à toi? Moi, c'est Jésus. Je trouve que c'est un gars, en termes d'exemple, il est plutôt pas mal. Il m'inspire beaucoup dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans la manière qu'il a été. Et d'une certaine manière, les gens qui disent ça, en fait, et qui pensent que du coup, ils peuvent faire le bien sans avoir d'exemple à suivre, c'est que justement, ils n'ont pas compris cette idée qu'en fait, on apprend en imitant. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui est, moi, pour moi, c'est un miracle, c'est qu'en fait, je constate que Dieu, il nous connaît tellement bien qu'en fait, le jour où il a voulu nous dire, j'ai envie de vous dire ce que j'ai au plus profond du cœur, j'ai envie de vous transmettre ce qui est le plus intime, il ne nous a pas donné un livre, il ne nous a pas demandé de suivre une formation en ligne, il ne nous a pas demandé de réciter telle ou telle chose, il nous a dit, je viens moi-même, suis mon exemple. Je m'incarne, je te donne l'exemple à suivre, je deviens le modèle parfait pour toi, suis-le. Alors comment est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on apprend ? On a parlé du fait qu'on apprend en imitant et tout ça. Et il y a eu plein de recherches par rapport à ça. Et il y a des chercheurs qui se sont posés la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour apprendre. Parce que quand on est, comme on disait, on sait rien. En fait, on a des réflexes, on a des choses qui nous viennent de manière innée, mais en fait, on va les perdre après. Et ensuite, on va acquérir petit à petit des choses qu'on va apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour apprendre ? Premièrement, voilà, on fait ce qu'on fait ce matin. Une prédication. On pourrait appeler ça un cours magistral. Une personne parle, les autres écoutent. C'est la forme d'apprentissage la plus classique, la plus utilisée probablement dans le monde, ou en tout cas au moins en Occident. Mais vous savez quoi ? C'est aussi la moins performante. C'est aussi la moins utile. Puisqu'en fait, en moyenne, quand on est un auditeur passif, on retient à peu près 5% de ce qui a été dit. Et je vous avoue que ça me désole d'avance. De me dire qu'en fait, je vais parler pendant une demi-heure, puis vous n'allez rien retenir, quoi, en fait. Bon, bref, c'est ma frustration. Voilà. Alors, du coup, comment on fait pour augmenter ce ratio ? Comment est-ce qu'on fait pour... et d'ailleurs, c'est le défi de tous les enseignants, hein, n'est-ce pas, Christine, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre mieux ? Eh bien, par exemple, on va faire lire la lecture. La lecture, par exemple, c'est une manière... Alors, on le fait de temps en temps au culte, en fait, ou par exemple, quand il y a un texte biblique, on va l'afficher. Je sais que Jeff l'a déjà fait, d'autres peut-être l'ont déjà fait aussi. Et du coup, on va le lire de l'extérieur. Et là, ça permet d'augmenter un peu. Mais pas forcément beaucoup plus que ça. 10%. 10%. Un peu plus. Mais ce serait quoi l'étape suivante? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Ce serait d'utiliser des supports audiovisuels. Alors là, on est dans une génération qui utilise ça à fond. De mettre de l'audio, de mettre de la vidéo. Vous avez vu ce matin tous les choix que le groupe de jeunes a fait. C'est très visuel, c'est très auditif, enfin très, très audio. On voit plein de choses et tout ça. Et on vit dans une société comme ça. Mais en fait, c'est parce que ça a un intérêt. Bon, un intérêt 20% d'apprentissage en mieux. Ce qui est mieux, mais pas forcément l'idéal. Alors, on veut faire mieux. Et pour ça, on va du coup faire une démonstration, c'est-à-dire une sorte de, une expérience, une manipulation qui nous permet de donner une sorte de cohérence, une certaine logique au raisonnement qu'on veut présenter. Et du coup, on va pouvoir mieux mémoriser. Et là aussi, on augmente encore un peu la capacité d'apprendre. Mais là aussi, en fait, on se rend compte que finalement, moi, je me disais que ça monterait plus haut que ça, quoi. 30%, c'est pas beaucoup, en fait. Et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on est dans des modes d'apprentissage passifs. Où en fait, la personne qui reçoit, elle est comme une sorte de vase dans laquelle la personne qui enseigne va verser son savoir, sa connaissance et tout ça. Et si on veut passer ce cap-là, si on veut franchir ce seuil, en fait, il va falloir apprendre de manière beaucoup plus interactive. Par exemple, avec des groupes de discussion. On retient 50% de ce qui est transmis, le fait de partager, d'échanger. Donc cet après-midi, par exemple, l'objectif, ça va être ça, de pouvoir échanger au travers de groupes de discussion, de dialoguer aussi sur cette thématique de suivre Jésus en tant que disciple. On peut aussi encore augmenter les choses en mettant en pratique directement ce qu'on apprend. Et on apprend encore mieux. C'est l'apprentissage par la pratique. Mais est-ce que vous connaissez...
Là, il ne faut pas mettre la dia.
Voilà, il ne faut pas la remettre parce que du coup, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen pour apprendre quelque chose? Est-ce que vous avez une idée? La répétition? Oui? Ouais? Ok. En fait, donc il y avait l'échec aussi, il y avait enseigné. Donc c'est Juan qui... En fait, le meilleur moyen, dans cette étude, c'était très intéressant, le meilleur moyen pour apprendre, c'est de transmettre, c'est d'enseigner soi-même. C'est de devenir celui ou celle qui transmet le savoir, ou en tout cas qui va le partager. Et en fait, finalement, plus on travaille en amont et plus on transmet après, et mieux on comprend aussi les choses. Et pourquoi est-ce qu'on les transmet? Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Alors du coup, j'ai essayé de m'inspirer un peu de ces exemples-là, et du coup, je vous propose un support. Alors au début, j'en ai fait que 50, mais j'en ai rajouté quelques-uns. Donc, avec Jeff, on vous propose un petit support pour pouvoir peut-être un peu mieux suivre, pour ceux qui ne sont pas trop dans l'oral et qui préfèrent les choses qui sont écrites. D'ailleurs, il y a des endroits où vous pourrez éventuellement vous faire plaisir et noter, prendre des notes aussi. C'est une manière d'être actif dans ce temps de la prédication. Et alors sur la feuille, en fait, vous avez sur le recto, c'est, on va dire, un condensé de la prédication. Et donc, vous voyez qu'il y a le petit diagramme avec la pyramide de l'apprentissage. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et de l'autre côté, vous avez les questions en petits groupes que l'on abordera cet après-midi. Et les réflexions personnelles aussi, qui peuvent vous accompagner, soit dans le groupe de cet après-midi, soit éventuellement pour une méditation personnelle pendant cette semaine. Et je vous propose de donc vous plonger dans le vif du sujet au travers d'un texte qui est dans Matthieu 28, du verset 16 au verset 20. Et alors que vous cherchez dans vos apps ou dans vos Bibles, je fais juste deux petits rappels que vous trouvez sur les fiches. Le premier, c'est que, comme on l'a dit, disciple, c'est-à-dire celui qui apprend en imitant, c'est notre identité première en tant que suiveurs de Jésus. Ceux qui suivent Jésus, qui sont des disciples, sont appelés plus de 250 fois dans le Nouveau Testament des disciples. Et seulement 3 fois des chrétiens. Et encore, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est même pas les disciples qui ont choisi de se faire appeler chrétiens. En fait, ce qui est surprenant, quand on lit les Actes des Apôtres, c'est-à-dire en fait la partie juste après Jésus, c'est qu'on se rend compte que les gens qui vivaient avec ces chrétiens, avec ces disciples-là, ils disaient « Waouh, ton comportement, ta manière d'être, ton attitude, ça me rappelle quelqu'un. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est Jésus. Oui, ça me rappelle Jésus. » En fait, tu essayes tellement d'être semblable à Jésus, en fait, tu es comme un petit Jésus, tu es comme un petit Christ, tu es comme un chrétien, en fait. C'est de là d'où vient le... Et c'est un peu comme un... C'est plutôt peut-être pour les jeunes que ça parle, c'est comme une sorte de time job géant où, en fait, on va essayer d'imiter ou d'être et les autres autour, ils vont devoir deviner qui on joue. Alors, nous, on ne joue pas, on vit dans la vraie vie et on a le droit de parler aussi parce que dans le time job, on n'a pas le droit de parler. Mais... je me dis que d'une certaine manière, en fait, on essaye d'imiter pour que les gens ils puissent voir et ils disent « Ah oui, mais toi, tu ressembles vraiment beaucoup à Jésus. » C'est ça notre objectif. Et finalement, nous, on s'appelle disciples, mais les gens autour de nous nous appellent chrétiens parce qu'on ressemble à Jésus. Et je me pose la question, est-ce que quand les gens voient des chrétiens aujourd'hui, est-ce que vraiment ils voient des petits Christ? Est-ce que la première chose qui leur vient à l'esprit quand ils voient des disciples de Jésus, est-ce que c'est « Waouh, mais en fait, ils ressemblent tellement à Jésus dans la manière d'être, dans la manière de faire les choses, dans l'amour qu'ils ont pour les autres et les uns pour les, et autour d'eux ?» Est-ce que c'est ça la réaction de base? Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'histoire, ça n'a très certainement pas toujours été le cas, même probablement pas suffisamment le cas. Pour prendre un exemple, par exemple, en Inde, le Mahatma Gandhi, qui n'était pas chrétien, qui était hindouiste, je crois, il me semble, mais qui s'est inspiré des enseignements de Jésus, il avait cette phrase qui disait « J'aime votre Jésus ». Alors, c'est traduit en anglais, donc ce n'est pas forcément très littéral, mais « J'aime votre Jésus, je n'aime pas les chrétiens. Vous, chrétiens, êtes si différents de Jésus. » Des petits chrétiens, des petits Jésus qui ne ressemblent pas à Jésus. Des petits chrétiens qui ne ressemblent pas à Christ. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fossé? Des gens qui disent on est censé suivre Jésus, mais en fait on ne lui ressemble pas. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait eu ce fossé qui s'est creusé? Et surtout, pour nous aujourd'hui, le défi c'est comment combler ce fossé? Comment faire que on retrouve cette ressemblance à Jésus-Christ? C'est tout le défi, je pense, qui nous est lancé dans cette réflexion sur le discipulat et qu'on pourra poursuivre. La deuxième chose qui m'intéresse aussi, c'est de voir... comment Jésus, il enrôle ses disciples? On pourrait dire aujourd'hui comment Jésus fait de l'évangélisation. On pourrait aussi dire quelle propagande. Quelle propagande. Pour tous ceux qui suivent Jésus, on sait par les évangiles qu'il nous est dit souvent qu'il y avait une foule. Donc en fait, il y avait Jésus, il y avait un petit groupe d'apôtres et de personnes, donc les 12 notamment, et plus largement, et après il y avait des disciples. On nous dit qu'à un moment ils étaient 70, et ainsi de suite. Et autour de ça, il y avait encore... Des curieux, en fait, des gens qui regardent comme ça, qui font « Ah tiens, lui, il dit des choses intéressantes » et tout ça. Et la foule était impressionnée par ce qui était dit. Mais du coup, comment est-ce que Jésus, ces gens-là, cette foule-là, comment est-ce qu'il les appelle? Comment est-ce qu'il leur propose de venir rejoindre son mouvement? Là aussi, on a quelque chose de très concret. C'est Jésus qui parle et qui dit dans Luc 9, 23-27, « Puis il dit à tous ». Donc tous, ça veut dire la foule, pas juste le groupe de disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi, à cause de moi, la sauvera. Ça, c'est le slogan de pub diffusé partout par Jésus. C'est le discours tout public. C'est de la pub à grande échelle, en fait. Et Je me faisais la réflexion aussi qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, on aurait plutôt tendance à faire les choses à l'envers, ou en tout cas à inverser les choses, en disant par exemple, pour nous, notre campagne publicitaire, c'est « Crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Crois en Jésus et tu seras pardonné, ta place au paradis, tu verras, c'est super. » Et donc, on aurait tendance à mettre en avant la partie un peu bénéfice pour essayer d'attirer les gens et pour essayer de les, je sais pas comment dire, de les enrôler, de les séduire et tout ça. Et en fait, ce n'est pas la technique de Jésus. La technique de Jésus, c'est les gens qui s'approchent, il les met en garde. Il met, si tu viens, à ce moment-là, c'est que tu es prêt à faire un pas de plus. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce pas de plus? Et ça s'adresse pas simplement au groupe de gens qui veulent aller plus loin. Ça s'adresse à tout le monde, toutes les personnes. Les curieux, ceux qui intègrent le groupe progressivement, ceux qui veulent aller plus loin. Est-ce que Jésus nous pose la question, est-ce que tu es prêt à vivre non plus pour toi-même, mais pour moi? Et finalement, ce qu'il dit, c'est que si tu n'es pas prêt à ce bouleversement de vie, à ce que tout soit infiniment plus secondaire et que moi je sois la priorité de ta vie, à ce que tu sois prêt à abandonner tes rêves de base, tes objectifs de vie personnels, et que tu me les remettes dans mes mains, alors à ce moment-là, c'est que tu n'es pas prêt, reviens plus tard. Et je me pose la question de savoir dans quelle mesure est-ce que ça peut influencer notre manière aussi d'évangéliser, en fait, de partager l'évangile. Alors maintenant, je vous propose, avec cette petite introduction qui nous donne un peu une sorte de cadre, on va dire, sur ce que Jésus entend par être disciple, de nous focaliser sur probablement le passage, the big passage, qui est le texte clé donc, de Matthieu 28. En anglais, on appelle ce texte « The Great Commission ». On a plusieurs anglophones. The Great Commission, qu'on ne doit surtout pas traduire en français, littéralement, parce que sinon ça donne la grosse, voilà. C'est un peu, voilà. Mais nous, on le traduirait, je pense, je sais pas, j'avais lu l'envoi en mission des disciples, quelque chose comme ça. Voilà. Mais ce titre, The Great Commission, c'est un peu la manière dont les anglo-saxons l'appellent. Et il y a un auteur qui lui dit qu'en fait, on ne devrait pas dire The Great Commission, on devrait dire The Great Omission. La grande oubliée. Parce que ce passage-là, probablement, a été trop délaissé, trop mis de côté ou minimisé par les chrétiens de toutes les époques et de tous les temps, en disant « Oh, finalement, si je suis Jésus, je peux faire un peu plus light » ou ce genre de choses-là. Alors, je vous invite à le lire. J'invite Sarah à nous faire la lecture. Tu l'avais ?
Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Ici, on a un... Merci Sarah, merci. On a un excellent descriptif de ce à quoi ressemble la démarche du discipulat. Et un bon exemple, alors on ne pourra pas tout dire, mais si vous avez des choses à dire par rapport à ce texte-là, ben venez cet après-midi. Mais j'ai voulu me focaliser sur quelques points clés. Et un bon moyen souvent de comprendre ce que Jésus veut dire, c'est de le mettre en comparaison avec ce qu'il n'a pas dit. Avec ce qu'il aurait pu dire, mais qu'il n'a pas dit. Et je vous propose 5 contrastes qui sont ciblés sur la phrase de « Faites des disciples » et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a fait des disciples, ou qu'est-ce que les disciples sont appelés à faire. Ils sont appelés à enseigner, à mettre en pratique. Alors là, il y a des traductions qui sont différentes. Peut-être que dans vos Bibles, vous avez des traductions différentes. On a aussi « Apprendre à observer ». Je ne sais pas si d'autres ont des traductions particulières, si vous les avez sous les yeux. C'est, ouais, obéir, enfin, apprenez-leur à obéir, enseignez-leur à mettre en pratique, enseignez-leur à observer. Et on en revient sur le point dont on parlait tout à l'heure. Enseigner à mettre en pratique, ce n'est pas enseigner. Parce que s'il avait parlé d'enseigner, on aurait abouti à une version académique. Notre responsabilité, c'est d'enseigner. Ok, bon, ben, j'enseigne, c'est tout. Ce n'est pas ça. C'est enseigner à ce que ça devienne pratique. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ça veut dire imiter. Et permettre aux gens que ce qu'on leur transmet, ce qu'on leur permet d'apprendre, ça ne s'arrête pas à ce fameux plafond de verre de 30% d'apprentissage. Et donc finalement, la pédagogie de Jésus, c'est que quand j'apprends, quand j'enseigne, je suis sur le terrain. Et notre premier terrain, c'est l'Église, c'est la communauté. En fait, c'est parce qu'en communauté, on s'entraîne, on s'enseigne mutuellement dans cet engagement personnel à dire « je suis les enseignements de Jésus ». C'est ce qu'on fait pendant le culte, c'est ce qu'on fait à la fin du culte, c'est ce qu'on fait la semaine aussi quand on a des petits groupes, des temps de rencontre et ce genre de choses-là. Et j'imagine que pendant les cultes, en fait, bon, en tout cas, j'espère que pendant les cultes, la question qu'on devrait se poser, elle est toujours la même. Qu'est-ce que, dans ce temps-là, dans ce culte, dans cette prédication, dans cet enseignement, qu'est-ce qui va changer dans ma manière que j'ai de vivre la semaine qui vient? Qu'est-ce qui se passe quand je ferme ma Bible, quand je quitte l'Église, pour que ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, devienne quelque chose que je mets en pratique? Comment je vais faire évoluer ma vie à la lumière de l'Évangile? Et finalement, du coup, on revient à cet exemple de Jésus. Quand les gens venaient vers Jésus et qu'ils lui disaient « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus, il ne lui dit pas « tiens, lis ce livre » ou « tiens, j'ai fait une formation en ligne, suis la formation ». Il leur dit « viens, suis-moi, c'est comme ça que ça marche. Imite mon exemple et marche à ma suite. » Et alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en pratique? On met en pratique tout. Tout. Pas juste ce qui nous fait plaisir, pas juste la partie qui sur laquelle on se focalise, parce que là, on aime bien quand Jésus il est comme ça, mais sur le reste, bon, c'est un peu plus difficile. Ça nous oblige aussi à avoir une vision globale, en fait, de qu'est-ce que Jésus dit. Et donc, on ne peut pas s'arrêter sur un ou l'autre passage, on est obligé d'avoir une vision globale. Et c'est tout ce que je... Et pour moi, quand j'ai relu il y a quelques années ce passage-là, et que j'ai redécouvert ce « je », ça m'a transformé, en fait. Ce « je », il est incroyable, en fait. Il ne dit pas, enfin, je ne sais pas si je serais très clair, après on peut en discuter, on peut dialoguer, mais il ne dit pas « enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que la Torah enseigne, ou tout ce que la loi enseigne, ou tout ce que la Bible enseigne, aujourd'hui on dirait. » Il leur dit « enseignez-leur tout ce que moi, Jésus, je vous ai transmis. » Donc la priorité, c'est d'abord les enseignements de Jésus, c'est d'abord l'imitation de Jésus, la manière dont il a été. Et après, on met en contexte, on met en relief tout ce qu'on a dans la Bible, mais avec ce prisme des enseignements de Jésus et de la manière que Jésus a de vivre les choses. Et quand il dit « je vous ai », tout ce que je vous ai suggéré de faire, par exemple. Non. Donc là aussi, c'est une prescription. Le mot, en fait, ici, c'est tout ce que je vous ai ordonné ou commandé de faire, en fait. Ce n'est pas juste une option. En tout cas, pour ceux qui veulent suivre Jésus, ce n'est pas juste une option. Et enfin, le dernier, c'est leur. Ou non, pardon. Certaines versions ont leur, d'autres ont vous. En fait, ça s'adresse aux disciples. Jésus, quand il parle, donc il dit... Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que le message des enseignements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est adressé aux disciples. Et il est transmis des disciples aux autres disciples. Ce n'est pas un message sur comment le monde doit vivre. Ce n'est pas un message sur si tout le monde vivait comme ça, on vivrait beaucoup mieux au sens général. Peut-être que ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais... Peut-être qu'effectivement, on vivrait mieux. Mais ce que Jésus dit là, il ne dit pas que tout le monde doit agir comme ça. Il ne faut pas que la société devienne plus chrétienne. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la question, c'est déjà, si l'Église devient plus conforme à ce que Jésus fait, c'est déjà l'essentiel. Et donc finalement, notre objectif en tant que chrétien, ce n'est pas que la société soit plus chrétienne, c'est que l'Église soit plus chrétienne. C'est que l'Église soit plus semblable à qui est Jésus. Et ça, je pense que c'est un défi qui nous occupera toute notre vie. Dans ce texte-là, si vous voulez avoir un résumé complet de ce qui est noté dans ce texte-là, vous raisonnez avec les « tout ». Et il y a quatre tout qui sont essentiels dans ce texte-là. Et donc je vous propose tous les tout de Jésus. Parce que Jésus nous dit « Toute autorité m'a été donnée ». Je crois que je ne l'ai plus là sur le passage, mais tu pourras défiler après. « Toute autorité m'a été donnée ». Toute autorité, c'est pour Jésus. Il n'y a pas d'autre autorité, il n'y a pas d'autre pouvoir, certaines versions ont pouvoir. Et ça pose la question de savoir aussi comment est-ce que, par exemple, quel sens est-ce qu'on donne à notre lecture de la Bible, par exemple. Est-ce que toute autorité vient de la Bible? Voilà. Mais ce que Jésus dit dans ce passage-là, c'est que l'autorité, elle est avant tout, en premier lieu, à lui. Et donc finalement, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. C'est en lui qu'est toute chose. Toutes les nations, c'est parce que l'évangile, il est ouvert à tous. Et ce choix, on doit donner la possibilité aux gens de dire non à Jésus. Ou de dire oui. Mais notre responsabilité, elle n'est pas dans le fait de leur vendre quelque chose qui soit plus attractif ou plus attrayant. Simplement de dire qu'est-ce que ça signifie en termes de prix à payer, comme on l'a vu dans ce que Jésus disait. Ensuite, on a dit les enseignements de Jésus avant tout ce que je vous ai prescrit, pas juste une partie, tout. Et ensuite, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours. Nous ne sommes jamais seuls. On n'est jamais seuls dans ce cheminement de disciples. Parce qu'on a la communauté, parce qu'on a Jésus-Christ. En conclusion, je vous invite à nous poser une petite question, et tout à l'heure, Amélie en a parlé. C'est une question qui est probablement la plus difficile, la plus épineuse. On a passé tout le culte, à peu près, à vous dire qu'il faut suivre Jésus. Il faut suivre un gars qui a vécu il y a 2000 ans. Alors, comment on fait en pratique, aujourd'hui? Concrètement, comment on fait? Un gars qui a vécu il y a 2000 ans, aujourd'hui, on est censé le suivre. À ce moment-là, soit on retourne dans le passé, mais ce n'est pas possible, en tout cas pas dans l'état. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit quand elle veut dire suivre Jésus? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et je vous propose trois points pour essayer de rendre les choses plus concrètes. La première chose à faire pour suivre Jésus, c'est de s'assurer qu'on suit bien Jésus. C'est-à-dire de ne pas s'inventer un Jésus qui nous ressemble ou qui est modelé un peu à ce qu'on aimerait qu'il soit, en fait. Et c'est probablement une des erreurs du passé, une des erreurs de l'histoire, en fait. Alors j'en ai mentionné une, par exemple, sur le fait qu'on s'est représenté un Jésus blond aux yeux bleus. Mais ça, à la limite, c'est un peu anecdotique, en fait. Mais au final, on voulait que ce soit un Jésus à notre image, en fait. On voulait essayer de modeler un Jésus qui puisse rentrer dans notre manière de vivre, notre manière de faire les choses. On s'est dit, notamment les Occidentaux, en fait, ont utilisé ce Jésus-là comme une sorte de manière de dire, en fait, Jésus nous appartient. Mais en réalité, ils ont faussé l'image de Jésus. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est de revenir au Jésus historique. Parce que Jésus est bien un personnage historique. Parce que Jésus, vous pouvez parler à n'importe qui aujourd'hui, notamment au niveau historien et tout ça, on sait qu'il y a bien un gars, un monsieur, un homme, qui au début de notre ère a marché sur les routes de Galilée. Et comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on le sait, en fait? Grâce à ça. Parce qu'on a quatre biographies, gréco-romaines qui nous parlent d'un gars qui a vécu à ce moment-là. Et c'est extrêmement fiable, en fait. On ne peut pas le remettre en question. Et on peut donc se plonger dans ces biographies pour y trouver le Jésus de l'histoire, en fait. Et finalement, je reviens sur ce Jésus de l'histoire-là, en fait. En venant sur Terre, il a clairement parler du fait qu'il nous donnait un exemple. Et vous voyez dans vos fiches que je vous ai donné plusieurs passages qui montrent cela. Je vous en propose un. Dans le texte de Jean 13, verset 15, il est dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Si on se pose des questions sur savoir qu'est-ce que je dois imiter chez Jésus et tout ça, ben on peut commencer par des choses simples, des choses basiques. C'est-à-dire quand Jésus, il est très littéral, quand il dit « voilà, ce que j'ai fait, c'est un exemple pour toi, eh ben suis-le ». Et là, cet exemple-là, c'est un exemple de serviteur. C'est un exemple qu'en fait, si on veut être un disciple de Jésus, l'objectif, ce n'est pas de dominer, l'objectif, c'est de servir. Ça, c'est des choses, ça fait partie du béaba de la vie de disciple. Et c'est intéressant parce qu'après, il dit, je vous l'ai mis aussi, si vous, au verset 16, « en vérité, si je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. » Certaines versions ont « le disciple n'est pas plus grand que son maître ». On revient sur cette relation maître-disciple, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Comme j'aurais aimé que Jésus s'arrête là. Si vous savez ces choses, vous serez heureux. Mais ça finit pas là. Si vous savez ces choses, vous serez heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Encore une fois. Il en rajoute une couche. Enseignez-leur à observer. Vous serez heureux. Mais pas simplement de les savoir dans la tête comme ça. Vous serez heureux quand vous les mettrez en pratique, quand vous les incarnerez vous-même. Voilà, il y a d'autres passages, j'en parle pas sur 1 Pierre et puis Philippiens 2. Ça, c'est la première chose. On a des endroits où Jésus nous dit clairement, voilà mon exemple à suivre. Mais on peut se dire aussi, bah, du coup, il a donné des exemples à ce moment-là, oui, mais c'était il y a plus de 20 siècles, une autre époque, un autre temps, une autre culture. Est-ce que nous, du coup, on peut incarner exactement son exemple aujourd'hui de la même manière? Est-ce que du coup, on va se mettre en sandales et on va aller marcher dans les rues? Et à ce niveau-là, je trouve que l'apôtre Paul, il a une réponse qui est, là aussi, franchement, s'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, pour moi, ce serait ça. Il a une réponse qui est absolument incroyable, c'est un peu l'exemple de Paul, ou la méthode de Paul, en fait. Et ça revient sur tout ce qu'on disait depuis le début, en fait. En fait, on imite Jésus par les personnes qui suivent Jésus et qui l'imitent. Paul, il a cette phrase dans 1 Corinthiens 11 qui dit « Suivez mon exemple » ou certaines versions « Imitez-moi comme j'imite le Christ ».« Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Est-ce qu'il n'aurait pas pris un peu la grosse tête? Est-ce que, du coup, il est en train de se prendre pour Jésus? Non, en fait, ce que Paul il dit, c'est qu'en fait, il a compris cette logique de l'apprentissage qui fait qu'on ne va pas dire aux gens « imite Jésus », oui, mais ils ne le voient pas. En fait, c'est à nous d'imiter Jésus et c'est au travers de ça, quand on nous-mêmes, on imite Jésus dans ce cheminement-là, que les autres à l'extérieur voient cette imitation que l'on a de lui. Et donc, nous devenons les transmetteurs de son message, de sa manière d'être, de sa manière de vivre. Et enfin, le dernier point, sur comment imiter Christ. Vous vous rappelez qu'à la fin de notre passage, ce que Sarah nous a lu, à la fin de Matthieu 28, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et qu'est-ce qui se passe après? Il s'en va. « Je suis avec vous. » Il s'en va. C'est un peu paradoxal, en fait, c'est comme s'il disait, bon, bah, je vais rester avec vous encore toute l'après-midi, salut. Ça n'a pas trop de sens, en fait. La question, enfin, du coup, en fait, c'est là où entre en scène ce que Jésus appelle l'aide et le soutien par excellence. Et le Saint-Esprit, on peut avoir beaucoup d'images de lui, mais il y a un élément clé qui nous permet de savoir qui est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean 14. Il nous dit, quand il était là, donc je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Ça veut dire, quand il était là, il nous a transmis des choses, beaucoup de choses. Mais le Consolateur, ou le Défenseur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'en fait, un bon moyen pour se rappeler de ce que Jésus a dit, c'est d'une part d'ouvrir sa Bible, mais c'est aussi d'autre part d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, c'est génial, parce qu'en fait, le Saint-Esprit, on sait à quoi il ressemble, on sait quel est son goût, on sait quelles sont ses odeurs et tout ça, parce qu'en fait, on nous parle du fruit de l'Esprit. On nous dit qu'en fait, il est doux, on nous dit qu'il est fidèle, on nous dit qu'il sait se maîtriser, on nous dit qu'il est bon. Et donc, finalement, quand on voit une personne qui est douce, qui est fidèle, qui est bienveillante. En fait, on voit des fruits de l'esprit. Et donc, on sait, ah oui, mais cette personne-là, elle est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'elle porte en elle les fruits de l'esprit qui nous rappellent ce que Jésus a dit. Voilà. Bon, je ne sais pas vous, mais par rapport à cette énorme tâche, il y a moyen de se sentir vraiment tout petit et de se dire, est-ce que vraiment on va y arriver, quoi ? Et on peut s'imaginer, comme on l'avait suggéré au début, que ce message il s'adresse avant tout à ceux qui sont des disciples avancés, à ceux qui sont déjà « moi j'ai envie d'aller plus loin » et tout ça. Ceux qui ont une foi, vous savez, inébranlable, qui lâchent rien, qui disent « jusqu'au bout Seigneur » et tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, et là je trouve que c'est vraiment une espérance incroyable, c'est que tout au début du texte, on a cette parole qui dit « ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes ». C'est à cette communauté d'adorateurs douteuses, ou plutôt d'adorateurs dans le doute, que Jésus confie le futur de son Église. Quand il dit « je m'en vais », ben les gens ils sont pas pleins de certitudes, pleins de confiance et tout ça. Ils ont une part d'eux qui dit mais « waouh, en fait, est-ce que vraiment c'est toi Jésus ? Comment est-ce qu'on va faire pour suivre ta mission ?» et ainsi de suite. Et je trouve que du coup, c'est aussi une manière pour nous de relâcher la pression, de se dire « je peux venir avec mes questions, avec mes doutes ». Et je pense que pour cet après-midi aussi, quand on va avoir ce temps d'échange et de dialogue, l'objectif, ce n'est pas de dire « on a toutes les réponses ». L'objectif, c'est de dire « on veut suivre Jésus ». Il y a des endroits où c'est plus clair que d'autres, il y a des endroits où on a plus de précision, mais au final, il y a peut-être des endroits où ben, on a des questions, on a des incertitudes. Et si vous faites partie de ces gens-là, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas suivre Jésus, mais simplement que du coup, dans ce cheminement-là, il nous éclaire le chemin petit à petit. Voilà. Et pour terminer, je vous propose une petite proposition de quelques pas à faire, quelques pas très concrets, et on peut les afficher, et je terminerai avec ça. Des pas, vraiment juste des tout petits pas, des pas de bébé. Premier pas, par exemple, restez à manger à midi et venez discuter. Voilà. C'est facile, hein, pour commencer à suivre Jésus. Ou alors, pourquoi pas revenir les dimanches à venir. Par exemple, dans 3 semaines, avec Jeff, quand on aura le même temps de partage avec la prédication du matin animée par Jeff et le temps de discussion l'après-midi. Revenez. Ça ne coûte pas grand-chose. L'autre chose, éventuellement, ça peut être, on va en parler lors des annonces, de participer à certains projets, comme par exemple le projet Vie dans la ville. Moi, je l'ai noté. Le fait aussi, éventuellement, de pouvoir intégrer un groupe de maison. On a parlé du fait que quand on voulait aller à un certain niveau d'apprentissage, ben, il y avait ce fameux seuil de l'interactivité, du fait qu'on soit plus passif mais actif. Peut-être que du coup, pour certains, le prochain pas, c'est ça. C'est de se dire, comment est-ce que je vais faire pour amener un peu plus loin ma marche avec Jésus-Christ ? Et peut-être que pour vous, le pas, c'est de dire, j'intègre un groupe de maison où je peux échanger, parler et tout ça, et ce n'est pas juste une personne qui me parle devant et moi j'écoute. Et un petit projet qui, on va dire, en germe, éventuellement, de réfléchir, ou en tout cas, c'est en réflexion, d'intégrer peut-être un petit groupe de discipulat, ou on appelle ça aussi des groupes de croissance, c'est 2-3 personnes qui développent des relations authentiques, sincères, de confiance et de redevabilité aussi. Et si vous êtes intéressé par ce projet-là, vous pouvez en parler à Jeff ou à moi aussi pour qu'on voit ce qui peut être mis en place. Apparemment, ça a été fait il y a quelques années dans l'Église et il reste quelques groupes encore, donc peut-être que ça peut être relancé. C'est probablement l'un des moyens les plus concrets aussi de pouvoir être accompagné dans sa marche avec Jésus. Voilà. Je vous invite à prier pour terminer. Jésus-Christ, tu nous as donné l'exemple parfait, l'exemple à suivre. Tu nous as invités à ta suite, tu nous as dit « suis-moi ». Et on ne veut pas le laisser juste comme une sorte de connaissance théorique, mais on veut vraiment le transformer en pratique, on veut que ça nous change notre manière de vivre, qu'on passe de l'information à la transformation, Seigneur. Et nous te prions pour toutes ces étapes, dans lesquelles nous cheminons aussi, que ce soit en communauté ou que ce soit de manière individuelle, Seigneur, tu nous accompagnes et nous pouvons te faire confiance. Et nous voulons aussi compter les uns sur les autres, apprendre les uns des autres, nous imiter mutuellement alors que nous suivons Jésus-Christ, Seigneur. On te remet ce temps de, de repas communautaires, ce temps d'agape et le temps de discussion de cet après-midi. Accompagne chacun, Seigneur, et guide-nous dans notre cheminement de foi. Amen.